des fois il pleut, des fois il y a quelques éclaircies. Après ça, ben, la pluie revient. Ça va être ça tout au long de la journée. Peut-être un ciel dégagé ce soir, si on en croit Environnement Canada actuellement sur Québec. C'est un 14. Les gars de construction me disent que ça travaille bien à cette température-là. Ils n'ont pas trop chaud, pas trop frais. Surtout s'ils sont à l'abri, en plus, sont bien. Donc, on a une petite pensée pour vous autres. Alternance de soleil-nuage. C'est ce qu'ils disent. Ce soir, ciel dégagé, minimum de 6. Demain, mardi, ensoleillé, avec des passages nuageux en après-midi, maximum de 23 degrés. Mercredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 27 degrés. Pascal, tranquillement, mais sûrement, on va ressembler à Cancun. Jeudi, des averses avec un maximum de 27. Et vendredi, ce sera de la pluie avec un maximum de 22 degrés. Je vous rappelle que la finale de la Ligue nationale de hockey pour remporter la Coupe Stanley, ben ça commence mercredi. C'est les Oilers d'Edmonton qui vont affronter en finale les Panthers de la Floride. Donc mercredi, les amis, sinon la Coupe Memorial, les Knights de London qui sont champions de la Coupe Memorial à Rimouski, victoire de 4-1 sur les Tigers de Medicine Hat hier soir. Et pour ce qui est de nos capitales de Québec, ça a été un super de beau week-end pour les capitales, notamment avec deux victoires de 8-2 et 5-1 dans un programme double hier. Match de samedi qui n'a pas pu être complété en raison de la pluie. Donc, retour en action demain. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, 418-971-1021, 418-971-1021.
L'incident sur Henri-Quatre-Nord, la fin de l'accès vers l'autoroute 40 Ouest, il y avait un débris dans la voie, il y avait un bac à ordures. C'est pas juste une petite affaire de pneus, là, on s'entend. Un gros bac à ordures qui était là. On est allé le tasser, mais ça a ralenti le secteur pour un petit bout.
Victor Henriquez, est-ce que tu as passé une belle fin de semaine, cher ami?
Ben avec la température, disons que c'était une belle fin de semaine, mais c'est pas dehors que ça se passait. Alors oui, mais j'ai hâte que l'été arrive. Vous parliez de 27 mercredi? Moi, il me semble que ça me parle.
Ouais. Moi, j'aime beaucoup ça quand à Montréal, vous avez la même température qu'à Québec. Des fois, là, il n'y a rien qui me tanne plus que quand c'est beau, gros soleil à Montréal, puis à Québec, t'as l'impression qu'on est au pôle Nord.
Mais déménage, Yannick.
Comment?
Déménage.
Non,
je suis sûr qu'ils vont t'accueillir les bras grands ouverts. D'une émission à Montréal maintenant, en plus.
Ouais, je sais pas. J'aurais peur de brûler sur une croix. Mettons,
ouais, je pense qu'il irait te chercher.
Avec des prêtres qui me tirent de l'eau bénite.
Ben moi-même, j'ai le goût de le faire avec toi en onde, alors.
Oui. Ça t'arrive souvent, beaucoup. Ça t'arrive souvent, d'ailleurs. Hey, le géant orange, l'autre bord, qui nous revient avec ces fameuses menaces là, de taxes sur l'acier. François Legault est un peu outré de ça. Puis on pense même qu'il pourrait monter ça jusqu'à 50 %. Est-ce qu'il va mettre ses menaces à exécution? Et si oui, est-ce que dans quelques jours, quelques semaines, il va décider de revenir sur sa décision puis de remettre ça comme avant?
Ben, en réalité, tu sais qu'il joue au yo-yo depuis des mois avec nous. Ouais. Et la question qu'on doit se poser, c'est quand est-ce qu'on va finir par s'adapter, hein? Parce que, j'ai une mauvaise nouvelle pour les gens qui nous écoutent, ça va durer au moins 4 ans. Il en reste 3,5 peut-être, ou même un petit peu plus que ça. Mais Donald Trump a décidé que les tarifs étaient son arme suprême. C'est comme un enfant qui a un seul jouet, qui ne joue qu'avec celui-là. Et qu'on le veuille ou pas, ben malheureusement, il arrive à contrôler la géopolitique de la planète avec ça en grande partie. Alors, ça reste qu'il l'utilise parce que ça fonctionne. Moi, je pense qu'il faut qu'on s'adapte. Il va falloir qu'on s'adapte dans nos discours, dans nos façons de réagir. Parce qu'en ce moment, on réagit à peu près à tous ces messages sur Truth Social de la même façon. Il me semble qu'après une couple de mois, on devrait s'adapter.
Est-ce que on dirait que les médias, eux, ne s'adaptent pas. Puis en même temps, ça fait de quoi jaser. Ouais,
mais t'as pas le choix de parler de ça. C'est tellement une grosse industrie.
Quand il y a quelque chose de plus tranquille, tu te dis, mais il me semble qu'il se passe rien. Là, avec Donald Trump, il se passe quelque chose à tous les jours. Mais je comprends ce que tu mentionnes. La fin est juste.
Imagine une chose, là. Imagine-toi comment est-ce qu'en ce moment, on est rendu qu'on se lève le matin, on va regarder sur un réseau social où est-ce que entre nous, c'est à peu près le seul gars qui est sur ce réseau-là, ce réseau Truth Social qui a créé parce qu'il s'était fait mettre dehors de X. Là, dès qu'il pose quelque chose, il fait la nouvelle à peu près sur la planète au complet. On parle d'un égocentrique qui adore entendre parler de lui. Donc, à un moment donné, il y a un effet pervers à tout ça. C'est que plus il le fait, plus on parle de lui, plus il a envie de le faire. Et là, on est en train de rentrer dans une espèce de géopolitique de personnalité vedette. Ou est-ce qu'on ne se base plus sur les relations entre un pays et l'autre, qui ça sont des choses durables, on se base sur l'humeur d'un président qui, à l'intérieur même de son pays, a de plus en plus de gens qui disent qu'il devrait avoir moins de pouvoir. Donc là où je pense qu'on doit s'adapter, Yannick, c'est que oui, les médias, mais c'est normal que les médias, on en parle, puis moi-même, j'aime ça le commenter, mais moi, ce que j'aimerais surtout voir de la part de nos gouvernements, qui sont ceux qui ont comme travail de gérer ces situations-là, qu'on soit capable de nous présenter des plans à plus long terme que la réaction à chacune de ces annonces. Et c'est là où je trouve intéressant ce qui se passe en ce moment, les rencontres de premiers ministres, les projets nationaux, même la réaction de Mélanie Joly sur l'acier et l'aluminium. À un moment donné, il va falloir qu'on se dise, OK, les choses ont changé, voici comment on va agir à partir de maintenant. On va considérer les États-Unis comme un voisin, parce que Donald Trump ou pas soit là, ça reste un voisin important, mais on a un plan pour faire de notre économie une économie forte. Il me semble que on est rendu là, parce que sinon, ça va être l'horrible panique pendant les trois prochaines années au minimum.
Ouais, puis ce qui est hallucinant, c'est que Mélanie Joly est sortie en disant « Je m'engage à privilégier l'acier et l'aluminium canadien. » Ben là, t'as peu, elle le faisait pas avant? On le faisait
ben,
pas
ça qu'on
avant?
Apprend. Ben, c'est ce qu'on apprend aussi. On apprend tout d'un coup que les gouvernements avaient de la misère à prioriser l'intérieur, la production intérieure. Puis c'est vrai qu'on vivait... On vivait dans une espèce de grand ensemble parce que les États-Unis ou le Canada, c'était à peu près pareil. J'inclus le Mexique là-dedans aussi. Parce que l'accord de libre-échange nous a donné cette espèce de... on a anéanti les frontières et on a la perception que ça se vende ici ou que ça se vende là-bas, c'est à peu près pareil. C'est ça qui a changé. Donc là, oui, ça nous fait tous réagir et dire, hey, mon Dieu, donc on construisait des choses ici avec de l'acier américain peut-être? Oui, parce qu'américain ou canadien, ça voulait dire la même chose. C'est plus le cas. C'est correct qu'on le fasse. Ce sera de voir aussi comment, dans les projets, on va s'assurer que ça se fasse sans que ça vienne exploser les coûts de construction. Parce que ça, c'est l'autre enjeu. Il faut quand même rester compétitif, surtout qu'on sait que le gouvernement fédéral va investir des milliards de dollars en infrastructure au Canada.
Avec la crise des logements aussi au résidentiel, tu sais.
Ben, tu l'as dit, la crise du logement, les projets d'infrastructure. Il va falloir qu'on en ait pour notre argent, parce que malheureusement, dans les dernières années, on n'entend pas de bonnes choses sur les projets que le gouvernement fait. On n'entend jamais des choses positives. C'est rare qu'on soit content d'un projet gouvernemental qu'on se dise « Oh mon Dieu, ça a donc bien été ». On se dit plutôt « Oh mon Dieu, ça a donc bien coûté cher ». Là, il va falloir aussi s'ajuster là-dessus. Puis les gouvernements, c'est ça leur job, hein, c'est de nous donner des solutions pour que ce soit le plus compétitif possible puis que les citoyens en aient pour leur cash. Parce que ça coûte cher d'impôts, puis on veut avoir des services qui viennent avec.
Oui, puis on se doit d'être le plus autonome possible. C'est si le gros orange nous a appris quelque chose, c'est que le grand frère est plus là pour nous supporter, puis on doit nous-mêmes faire nos propres trucs. Ce qui fait en sorte que les Canadiens, puis j'inclus les Québécois là-dedans, en fait, surtout les Québécois, là, la fin va justifier les moyens. Là. T'sais, moi, j'ai vu en quelques mois l'idée des Québécois de ne pas exploiter nos ressources sous terre. Aujourd'hui, il faudrait qu'on le fasse pour se sortir du trou parce que le gros orange, il veut plus nous aider. Tu sais, l'oléoduc, ben là, tout le monde veut le fameux oléoduc, alors que l'année passée, personne ne le voulait selon nos politiciens. Ouais. Mais comme la fin justifie les moyens, on dirait que les Québécois se rendent à quel point on est dans le trouble.
Et ça, c'est un peu dommage, Yannick, parce que il y avait un projet, il y avait des projets. Il y avait le projet Énergie Est, il y avait le projet Northern Gateway. Puis là, je veux pas juger le projet si c'était bon ou mauvais, mais à l'époque, on faisait le débat en disant, dans 10 ans, on va encore avoir besoin de pétrole et on va avoir besoin de le transporter. Là, aujourd'hui, on refait le débat sur un oléoduc, mais pas pour aujourd'hui, encore pour dans 10 ans. Tu sais, malheureusement, on dit qu'en communication, le timing, c'est aussi important que le message. Dans ce cas-ci, justement, le timing est venu rejoindre un message qu'on a déjà entendu. C'est juste que pour les gens, dans le contexte actuel, on le comprend plus clairement. Mais la réalité, ce qu'on doit se poser, la question qu'on doit se poser maintenant, c'est, OK, dans 10 ans, la planète va avoir l'air de quoi? Parce que là, il n'y a pas de projet en ce moment. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'investisseurs privés. Moi, je pense qu'il va y en avoir des projets qui vont arriver assez rapidement sur la table. En même temps, les gens vont vouloir des garanties d'acceptabilité puis des garanties que ça va se faire. Parce qu'il y a eu des millions de dollars de dépensés sur des projets qui se sont jamais faits. Pensons seulement à GNL Québec, pensons à NRJS, pensons à d'autres projets de même. Il y a quand même des fonds d'investissement qui ont mis beaucoup d'argent pour étudier ces projets-là et ils se sont tous butés à l'acceptabilité sociale. Il va falloir qu'on donne des garanties à ces entreprises-là. Il va falloir aussi qu'on se pose la question de savoir à long terme qu'est-ce qu'on veut. Parce que ces projets-là, si tu veux qu'ils soient rentables, il faut qu'ils soient construits pour les prochains 25, 35, 45 et 50 ans. Ça ne peut pas se construire sur les prochains 5 ans. Alors, on doit avoir cette capacité à regarder à long terme. Et ça, là-dessus, les gouvernements doivent aussi nous aider à mieux comprendre les aspects long terme, à mieux comprendre les retombées à long terme, à mieux comprendre pourquoi un projet qui prend du pétrole en Alberta puis le sort, par exemple, au niveau du Nouveau-Brunswick, qu'est-ce qu'il y a de bon pour le Québec ou qu'est-ce qu'il y a de moins bon pour le Québec là-dedans? Parce qu'on est souvent dans la discussion environnement versus énergie. là où il faut être dans une discussion peut-être un peu plus globale, un peu plus économique. J'ai pas la réponse nécessairement. Moi, je suis un gars de com, je suis pas un gars d'énergie. Mais ce que je sais, par exemple, c'est que la conversation doit se passer sur le bon sujet. Et trop souvent, on a des conversations sur le court terme dans des projets qui sont à très long terme.
Mais c'est très compliqué aussi entre les provinces. On dirait qu'il y avait genre quelque chose de sectaire entre provinces. Chaque province voulait prouver qu'elle était meilleure que l'autre. Puis là, j'y vais rondement dans l'évaluation. Mais même le Québec, le spectre séparatiste était là puis est resté, même si on passait pas à l'action puis le PQ était pas ouvert. Il y a quelque chose qui a commencé à se jaser, mais on ne pourra pas plaire à tout le monde avec les mesures Carney de dire, si vous embarquez dans le fait qu'on travaille tous ensemble, on va vous donner tous les cadeaux du monde, vous allez faire votre liste, puis on va vous les octroyer. On va manquer d'argent tantôt, on va manquer de ressources tantôt, puis on ne pourra pas y aller à part égale selon les provinces. Moi, je vois que la stratégie Carney, elle veut faire en sorte qu'on travaille tous ensemble, mais est un petit peu trop bonbon cadeau, là.
C'est ça qui va être le grand mystère. Hein. Moi, je n'haïs pas le fait qu'on regarde l'unité nationale sous un angle économique plutôt qu'un angle identitaire. On a trop longtemps regardé la question de l'unité nationale sur autre chose que l'économie. Alors, c'est intelligent de sa part. Il amène ça sur un terrain qu'il connaît, sur un terrain qu'il contrôle. La question des chiffres, il connaît ça. Donc,
et puis c'est essentiel en ce moment.
C'est essentiel en ce moment, puis il connaît ça. Donc, on sait de quoi il parle. Tu le sens à l'aise là-dessus. Mais tu as entièrement raison. À un moment donné, on ne pourra pas tout donner à tout le monde. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'on ne pourra pas continuer à exiger sans donner aussi. François Legault l'a dit aujourd'hui, nous, on a un projet de ligne électrique avec Churchill Falls. Eux, un projet de l'éoduc, il faut qu'on discute. Ça va être ça aussi, l'unité canadienne économique. Ça va être de dire, OK, jusqu'où on est prêt à aller à donner aux autres pour nous aussi pouvoir recevoir.
Ouais.
Tu sais, par exemple, si tu veux un TGV, jusqu'où tu vas aller pour qu'un TGV se fasse? Alors, c'est tout ça qu'on est en train de rentrer dans la nouvelle discussion, dans la nouvelle conversation économique. Ça va être intéressant parce que nous, on a une élection provinciale qui s'en vient dans un an. Et comment le gouvernement du Québec va réagir par rapport à ça? C'est un peu là-dessus qu'on va devoir voter dans un an. Quel genre de gouvernement, nous, on veut face à ces nouvelles ambitions du fédéral? Alors, la conversation commence à s'installer aujourd'hui, puis le citoyen doit être attentif parce qu'on va lui parler de ça pendant toute la prochaine année et demie au minimum. Et au bout de la ligne, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est des projets, c'est de l'argent, c'est des emplois, c'est des investissements. Ça va être compliqué, par exemple. C'est pas une mince tâche pour le premier ministre canadien.
Oui, puis c'est de voir François Legault aujourd'hui qui réagit justement à cette possibilité qu'il y ait un pipeline qui passe sur le territoire du Québec. Lui, il doit garder les communications assez... je dirais soft par rapport à sa base électorale, parce que dans les dernières années, lui, il avait complètement fermé la porte à l'exploitation des ressources naturelles, comme le gaz et tout ça. L'oléoduc, au départ, quand il a écrit son fameux livre, là, il était pour. Après ça, il était plus ou moins pour. Là, il parle de retombées économiques. Ce qu'il dit, c'est que s'il y a un pipeline qui passe sur le territoire québécois, il va devoir être approuvé par le gouvernement du Québec, mais il va être analysé au niveau des retombées économiques et les impacts environnementaux. Mais pour ce qui est des impacts environnementaux, Victor, là, peu importe où vous êtes situé sur la Terre, le pipeline, c'est la façon la plus efficace de transporter du gaz ou du pétrole, et c'est la façon la plus sécuritaire, plus que le bateau, plus que par les airs, quoique très peu, on transporte du pétrole par les airs, plus que par les trains. Mais il doit dire aux Québécois, non, moi, je suis encore à gauche, là, au niveau de l'environnement, je suis encore à gauche, mais on sait tous que si le pipeline doit passer, il va passer.
Exactement. S'il doit passer, il va passer. Puis surtout, on parle beaucoup de conditions environnementales, de retombées économiques. La question est simple, c'est l'acceptabilité sociale. Est-ce que la population va être en accord avec ce projet-là? Ce qu'on sait en ce moment, c'est que l'opinion du public a changé. C'est que le public a commencé à regarder la chose différemment. C'est que l'autonomie énergétique, c'est devenu important pour le public. Donc, la gestion de risque, la balance qu'on fait comme membre, comme citoyen, comme membre de la société civile, elle n'est plus la même que dans le temps. C'est ça qui a changé. Après ça, les retombées économiques, en passant, il y en a toujours. Quel que soit le projet de construction, tu as des retombées, que ce soit sur la construction ou que ce soit à long terme. Mais ce qu'il va falloir aller chercher, c'est une acceptabilité sociale suffisante et suffisamment à long terme pour pas qu'on se retrouve avec des blocus permanents de chantier, pas qu'on se retrouve avec des projets qui peuvent pas se finir, parce que, Yannick, il faut le savoir, c'est important. Ces compagnies-là, ces compagnies privées qui viennent investir, l'élément le plus important pour eux, c'est la prévisibilité. Eux autres, ils veulent investir sur des choses qui sont stables, qui sont safe. Si on est dans l'insécurité de pouvoir compléter un projet, parce que l'acceptabilité sociale n'est pas 100% là, ou qu'on sent pas qu'au Québec, ça peut débloquer, on n'ira pas de l'avant avec ces projets-là. Donc, à un moment donné, cette conversation-là, elle se dirige vers les citoyens. Elle va se diriger vers les gens en disant, est-ce que vous êtes prêts à accepter un oléoduc? En échange, voici ce qu'on va avoir. Et pour des gens, ça va être de l'environnemental. Pour des gens, ça va être des énergies propres. Pour d'autres personnes, ça va être des retombées économiques. Chacun va avoir une évaluation différente. Puis ensuite, on va aller chercher une majorité. Parce qu'on ne peut pas aller chercher l'unanimité. Ça n'arrivera jamais que tout le monde sera d'accord avec un projet, quel que soit le projet. Il faut qu'on aille chercher un équilibre suffisant pour se dire, OK, comme société, on est prêt à aller de l'avant.
C'est-tu la première fois qu'on voit un genre d'unicité pan-canadienne de cette manière-là?
Moi, c'est la première fois que je vois ça de mon vivant.
J'ai l'impression aussi. Ouais.
Moi, je me souviens pas d'avoir vu, c'est vrai que d'avoir vu une perception aussi semblable un peu partout, là. Mais ce qui est intéressant, tu sais, quand tu te fais attaquer, ça ramène tout le temps les gens à l'essentiel, hein. Et là, en ce moment, ce qu'on sent, c'est ça. C'est que tout le monde se dit, ah, si les États-Unis ne nous voient plus comme un voisin, faut qu'on se débrouille tout seul. Alors, je pense que ça, c'est ce qui fait que, pour la première fois, moi, de mon expérience adulte, disons-le, là, les 25 dernières années, je me souviens pas d'avoir vu un moment comme ça. L'autre chose, c'est qu'il faut que ça dure aussi parce que, le bonhomme orange, il est peut-être pas là pour 10 ans, là. Alors, il y a de fortes chances que tout ça arrive après que Donald Trump soit plus là, après que le président américain ait changé, que le contexte mondial ait changé, que la Chine soit dans une autre position. Alors, c'est là aussi, il faut regarder, dire, OK, on peut être d'accord maintenant, mais il faut être d'accord sur le long terme.
Bien, il faut garder le cap parce qu'on avait vu justement la recrudescence de gens qui voulaient acheter québécois, qui voulaient acheter canadiens, aussitôt qu'on a dit on gèle les fameux tarifs qu'on n'a pas imposés officiellement par Donald Trump sur notre consommation au quotidien. Il y avait eu l'essoufflement très rapide en 72 heures. On souhaite pas que ça fasse ça non plus au niveau commercial économique, là.
C'est exactement ça. Tu sais, les réactions, on a tous des réactions émotives, hein? La job du gouvernement, c'est de passer au-dessus des émotions. Nous, comme citoyens, on a le droit d'avoir des réactions émotives. C'est comme ça qu'on fonctionne. Mais les gouvernements doivent réagir autrement. C'est là où est-ce que... Moi, je m'attends encore à des réponses. Puis je m'attends encore à ce que le gouvernement fasse de l'éducation, fasse de l'accompagnement. J'aime pas le mot éducation, là, mais plus de l'accompagnement, qui donne le plus d'informations possibles aux gens pour que les gens, dépendant de leurs opinions, puis de voir ce qu'ils sont rendus eux-mêmes, soit capable de se faire une tête.
On parle d'un sujet qu'on n'a pas nécessairement entendu parler beaucoup, là, Victor Henriquez, c'est le fameux dialogue de Shangri-La, qui est le plus important sommet sur la sécurité et la défense en Asie, qui est assez monopolisé par les tensions sino-américaines. Et il y a le secrétaire de la défense, Pete Hegseth, qui a mentionné que la Chine communiste représente une menace bien réelle en Asie et qu'elle pourrait représenter un risque imminent. Ça a été une surprise pour plusieurs, là.
Vraiment, et ça vient mettre des tensions assez importantes sur cet événement-là, qui était un événement où le Canada était là pour observer un peu la situation en Asie. Plusieurs pays de tout cet ensemble d'Asie-Pacifique étaient présents. Et le secrétaire à la Défense est venu littéralement dire que la Chine était en danger, dire également que les pays d'Asie devraient investir jusqu'à 5% de leur PIB en défense.
Ouais. Mais est-ce que la Chine veut vraiment rentrer à Taïwan d'ici 2027? Ils veulent vraiment prendre possession de Taïwan?
En réalité, qui peut vraiment deviner ce que la Chine veut faire à ce moment-ci, honnêtement? Là, moi, je pense que c'est plus du spin politique que d'autres choses. Hein.
Ah ouais.
Les Américains veulent que l'on voit la Chine comme l'ennemi numéro un. Puis en ce moment, là, dans l'espèce de géopolitique mondiale, il y a des espèces de blocs qui sont en train de se former. Le bloc, justement, des pays qui appuient l'alliance de la Chine avec ces pays asiatiques, les pays d'Afrique, par exemple, qui sont très proches de certains pays chinois. Le bloc pro-américain. Là, il faut voir où est-ce que la Russie s'en va là-dedans, parce que la Russie semble vouloir être pas trop loin des États-Unis, mais a une entente commerciale forte avec la Chine. Alors, tous ces blocs-là sont en train de se placer, et on sent que du côté des Américains, on essaye de ramener, justement, des pays vers le bloc américain. L'Australie, par exemple, a réagi en disant que oui, elle condamnait la Chine. D'autres pays, par exemple, ont décidé d'appuyer la Chine, je pense aux Philippines. Donc, tout ça est en train de bouger. Puis ça, encore une fois, regarde, un secrétaire d'État à la Défense s'en va à ce congrès-là pour dire aux Asiatiques, finalement, le plus gros pays de votre ensemble, ou le deuxième plus grand, parce que l'Inde est rendu le pays le plus peuplé au monde, mais le deuxième plus grand est un danger pour vous tous. La Chine communiste est un danger, puis je vais vous demander d'investir 5% en PIB en défense, mais pendant ce temps-là, je vais aussi vous mettre des tarifs supplémentaires. Et lorsqu'il s'est fait poser la question, le secrétaire à la Défense, il dit, moi, je travaille dans les chars d'assaut, pas dans les tarifs douaniers. Ça te montrait à quel point on est dans la politique simpliste ici, dans les grands messages politiques. C'est ça qu'on fait du côté de l'administration américaine. On est dans les grands messages très simples, parce qu'on veut faire bouger les plaques la planète.
Oui, puis à ce sommet-là, là, qu'on appelle le dialogue Shangri-La, il y a des responsables militaires chinois qui sont sur place, qui entendent le ministère de la Défense des États-Unis dire qu'ils sont une menace pour Taïwan.
Oui, puis tu vas chez eux, parce que ça reste que c'est Le bloc asiatique, c'est un bloc où la Chine est extrêmement influente, non seulement en termes militaires, en termes économiques, mais aussi en termes culturels. Et là, tu t'en vas dans ce bloc-là, littéralement, leur dire « Hey, celui que vous voyez peut-être comme un allié, ben, c'est votre plus grand ennemi. » C'est comme si les Chinois venaient au Canada participer à un congrès et diraient « Hey, gang, n'oubliez pas que Donald Trump, c'est votre pire ennemi en ce moment. » C'est un peu particulier quand même.
Non, ouais. Mais on la connaît, là, entre les États-Unis. On la connaît, la chanson, entre les États-Unis puis la Chine avant même la pandémie. La Chine, c'est dans une perspective, si je ne me trompe pas, de 5 à 7 ans, qui a dépassé économiquement la plus grande puissance économique qu'est les États-Unis depuis toujours. Puis ça a été leur combat. Ils en ont perdu, les Chinois, parce que ça a été trop fort et difficile pendant la pandémie. Et, mais ils veulent retourner là. C'est pas pour rien qu'il y a des grands projets. Fait que dans cette structure-là que tu nous proposes, visuellement, de penser que les États-Unis veulent qu'on ait peur de la Chine pour de mauvaises raisons, pour qu'on fasse moins affaire économiquement avec eux, ils gagneraient beaucoup pour reprendre un élan qu'ils avaient, là.
Exact. Il ne faut quand même pas oublier que un des pays qui a le plus alimenté la croissance chinoise, c'est justement les États-Unis, avec le nombre d'entreprises américaines qui sont allées s'installer en Chine pour fabriquer moins cher. Alors, à un moment donné, ils se sont pris eux-mêmes dans leur propre piège aussi, là-dedans. Alors, c'est pour ça, la géopolitique mondiale, c'est hyper complexe. Et c'est toujours un peu particulier lorsqu'on voit que les politiciens essaient de nous faire des messages très simples pour expliquer des choses très compliquées. C'est souvent mauvais signe, d'ailleurs. Il y a souvent une manipulation d'informations là-dedans. Parce que tu dis que si c'est si simple que ça, ce serait réglé depuis longtemps, ce n'est pas le cas. Alors, il faut vraiment aller regarder, le diable est dans les détails dans ces choses-là. Et tout ça va bouger très lentement. Et comme tu l'as dit, Pascal, l'espèce d'inimitié ou de vision d'ennemi entre la Chine et les États-Unis, c'est rien de nouveau. Et malheureusement, ça ne changera pas dans les prochaines années, quoi qu'on en fasse.
Victor Henriquez, merci de nous avoir donné un peu de temps, mon ami.
Merci pour l'invitation. À bientôt.
Est-ce qu'on te voit à nouveau ce soir, là?
Je sais pas encore, je vais le savoir tantôt, mais ça se fait bien. Cette semaine, c'est sûr qu'on se voit là-bas.
Bon, puis là, ça te prend combien de temps, là, quand t'es là-bas? Faut qu'ils te maquillent, après ça, vous passez en onde.
Oh, ça, c'est une petite soirée, le fun, là. Ouais. Tu sais, il y a des gens qui jouent au tennis ou au hockey, ben moi, je fais des débats.
C'est son deck hockey.
Oui, c'est ça. Sauf que moi, voilà, au deck hockey, je vais pas me faire maquiller, là.
Non, tu te fais mal, ouais, mais... tu joues comme un cochon.
C'est ça.
Toi, tu restes en forme, par exemple, Yannick, ça.
Salut Victor!
Salut!
Bye-bye, l'excellent Victor Henriquez qui est analyste politique. Pour nous joindre en studio, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, ou encore vous avez des choses à nous dire, c'est le 971-1021, 418-971-1021. Il est midi 57, on fait une courte pause et on vient.